Coup de sûr dans le mid
avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Hey boy.
Radio X.
Ouais, hier, c'est rare que ça arrive, là, mais dans la NFL, hier soir, ça a fini égalité.
Ben oui. 40-40. Les Packers contre les Cowboys. Tout un match, hein?
40-40. Moi, j'ai rarement vu
c'est
ça.
C'est rare.
Et c'est un match de fou, là. Allez réécouter ça parce que c'était quelque chose. Moi, j'étais sûr que les Packers allaient laminer
ouais. Les
Cowboys. Puis les Cowboys ont commencé à jouer, puis pas à peu près, là. Non, il y a tout un match de football hier. Hey, ce soir, il y a deux matchs.
Oui. Les Jets contre les Dolphins.
Les Poissons contre les Jets.
Ouais.
Et l'autre match.
Ouais.
C'est quoi? C'est
les Broncos?
Les Broncos contre les Bengals.
Bon, ça, c'est un match de division pas mal.
Les Broncos vont passer, écoute.
Ouais, une solide défensive.
Joe Burrow est pas là. Blessé.
C'est vrai.
Fait que.
Ouais.
Non, ça va pas bien pour les Bengals. Là, je parlais pas des Bruns. On va laisser faire notre défaite hier. Mais il y a de l'espoir. Voilà. Notre invité, il est là.
Yes.
Médecin Karim El Ayoubi, comment allez-vous?
Bonjour, ça va bien, vous?
Oui, ça va bien. Est-ce que ça va bien aussi dans le monde de la santé? Le Christian Dubé qui resserre encore l'étau. Lui, il veut que dès janvier, 1,2 million de patients orphelins, lui, il espère qu'ils vont être pris en charge dès janvier 2026. Ça va arriver vite. Ça va arriver vite. Quoi penser de tout ça?
Ben, c'est-à-dire que ça va lui faire des statistiques exceptionnelles, M. Dubé. Il va... sur papier, être le plus grand ministre de l'histoire du Québec, le plus grand ministre de la santé de l'histoire du Québec, parce qu'il va être le seul qui va avoir donné une prise en charge à 100% des Québécois. Donc, à partir de ce moment-là, sur papier, ça va être magnifique, c'est certain. Mais ce qui arrive, c'est que ça augmente pas l'offre de services globale. Ce qu'il faut bien comprendre, ce que M. Dubé veut faire, il veut forcer la prise en charge. Autrement dit, de façon comptable, dans les papiers du ministère, tout Québécois va être affilié soit à un GMS pour la prise en charge de première ligne, soit à un CLSC. Donc, vous allez recevoir une lettre ou un courriel, peu importe, vous dire, par exemple, « Monsieur Couture, vous êtes pris en charge par GMS telle place, telle adresse, ou CLSC au coin de telle rue et telle rue. » Donc, statistiquement parlant, vous allez être pris en charge. Mais si vous augmentez pas l'offre de services global, même si vous êtes pris en charge, ça va juste prendre du temps à vous voir.
Ben c'est ça, je vais avoir rendez-vous dans 6 mois, là.
Moi, demain matin, exactement. Moi, disons que demain matin, je décidais de doubler mon nombre de patients que je prends en charge au bureau sur ma paie. Ce serait extraordinaire parce que j'aurais beaucoup de bonus, là, parce que les facteurs de performance existent déjà dans le réseau de la santé, là. On a l'impression, ce qu'on entend parler, c'est que ça n'existe pas, les facteurs de performance. C'est comme nouveau. Non, il y en a. Si demain matin, moi, je décide, j'envoie une lettre à Santé Québec, je leur dis, je veux avoir 2 fois plus de patients,
oui.
ma paie va être significativement plus élevée à la fin de l'année, mais je vais donner un piètre service à mes patients.
Ben
la
là, raison
pour laquelle je ne le fais pas, c'est que je veux pas que quand les patients y appellent au bureau ou quand ils regardent sur le site web pour prendre rendez-vous, que ça prenne 7 mois me voir, parce que sinon, c'est comme si tu n'as pas de médecin de famille en réalité. Donc, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la stratégie de M. Dubé, elle est très payante sur le plan, elle peut être payante sur le plan électoral, parce que statistiquement parlant, il n'y en aura pas de meilleur que lui dans l'histoire du Québec, ça c'est certain. Mais l'offre de service n'augmente pas, ça va prendre plus de temps voir les patients, tout simplement.
C'est ça le problème, parce que là, la prise en charge sera gérée par un gestionnaire qui, lui, devra dire, assurez-vous qu'un patient un tel, selon le code de couleur, soit vu par tel professionnel, mais il n'y a pas plus de personnel dans l'établissement, donc c'est des gens qui vont continuer d'attendre, là.
Tout à fait. Ou c'est sûr que là, s'il met en œuvre ces genres de faits, il peut être à peu près le seul endroit au monde qui décide de faire ça, là, mais je serais pas surpris qu'il aille là. Il pourrait faire en sorte que si ton patient n'est pas vu à l'intérieur
d'un délai,
là, tu vas avoir une pénalité sur ton salaire. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, ça vient comme en confrontation avec les obligations déontologiques. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire, on ne peut plus maintenant pratiquer la médecine comme ça se pratiquait en 1965. Il y a des règles au Collège des médecins, puis lorsque le Collège des médecins rentre et inspecte tes dossiers, tu peux pas faire de la médecine aux 3 minutes. Là. Faut que tes notes soient bien écrites. Après ça, il faut que t'aies Il y a un minimum de qualité dans ta prise en charge. Ça, faut bien le comprendre. Il y a une tenue de dossier qui est exigée. Donc, c'est sûr que le ministre ne peut pas, il peut le faire. C'est lui qui a le pouvoir exécutif. Mais, je veux dire, de façon responsable, il ne peut pas exiger un débit aux médecins qui va à l'encontre de leurs obligations déontologiques auprès du Collège des médecins. Et le Collège des médecins dit régulièrement, on ne peut jamais sacrifier la qualité au détriment de la quantité. Ça, c'est une réalité. Donc, il faudrait peut-être que M. Dubé parle au Collège, puis regarde, est-ce que, en raison du fait que, puis je dis pas que c'est ce que je veux, là, je pense pas que c'est la bonne solution, mais est-ce que en raison du fait qu'il n'y a pas eu... Il y a beaucoup de patients qui sont pas pris en charge, qu'il y a une offre de service qu'on veut absolument augmenter l'offre de service. Ben, si le ministre nous oblige à faire des choses, il faudrait que le collège regarde de son côté et dise on baisse les standards de qualité à ce moment-là, puis on dit on est mieux d'aller d'en voir plus parce que on peut en échapper sur des listes d'attente. Mais à partir de ce moment-là, je dis pas que c'est la chose à faire, mais je dis qu'il faudrait que les deux se parlent à un moment donné parce que ce que le ministre va nous demander, c'est soit il va avoir des patients qui vont attendre très longtemps pour être vus, puis leur prise en charge, ça donnera pas grand-chose, soit il va falloir voir plus de patients par unité de temps sans avoir plus de ressources. À partir de ce moment-là, il y a un risque de sacrifier la qualité, puis c'est une médecine, ça sera pas une médecine de pays du G7, c'est certain.
Ouais, parce que les médecins qui travaillent déjà 50 heures, on dit une moyenne d'environ 46 heures par semaine, la moyenne, là, selon des sondages qui ont été faits auprès des médecins, ceux qui travaillent déjà 50-55 heures vont peut-être augmenter leur productivité, mais là, on veut aller chercher ceux qui sont moins productifs. Et souvent, les moins productifs, c'est souvent peut-être des médecins qui sont déjà à la retraite, ou à tout le moins, ils sont près de la retraite, ou qui acceptent de venir parce qu'ils en mangent, ils ont mangé de la médecine dans leur vie, là. Et eux autres, ils peuvent quitter, on pourrait les écœurer, eux autres, puis ils vont quitter, donc ça ne réglera pas le problème nécessairement.
Oui, c'est un bon point que vous amenez. Et il y a aussi, ça peut arriver que parmi, lorsqu'on regarde un peu là, dans l'étude là qui est parue, il y a le HEC qui avait fait là une étude. Puis ça montre que oui, il y a un certain pourcentage de médecins, même des médecins qui ne sont pas à la retraite, qui vont travailler moins de 200 jours. Chez les omnipraticiens, là, je crois que c'est 18 % chez les spécialistes autour de 20 %. Mais ce qu'il faut prendre en considération là-dedans, c'est qu'il y a il y en a qui ont des charges de travail universitaires, qui vont faire de l'enseignement. Il y a des médecins qui font de la recherche aussi, qui font de la recherche fondamentale ou de la recherche appliquée. Ça, c'est une réalité. Et comme dans toute profession, il y en a qui ont une capacité de travail moindre que d'autres. Pour de multiples raisons, que ça peut être, ces raisons-là peuvent être familiales, peuvent être à l'échelle personnelle. Et on peut pas forcer, on peut pas avoir un ministre ou un ministère qui tend à prendre des mesures coercitives pour forcer les gens à travailler plus malgré leur désir. On le voit clairement dans cette étude-là. Il y a, chez les médecins de famille, il y en a 36 %, je crois, c'est autour de 30 et 35 %. Donc, disons, globalement, là, une personne sur trois qui prend moins d'une semaine de vacances par année. Je pense pas qu'il y a tant de professions que ça, qu'ils ont une personne sur trois qui prend moins d'une semaine de vacances par année. Donc, à partir de ce moment-là, vous voyez très bien que ça s'équilibre. Ça suit une certaine courbe de garde.
Il y en a qui travaillent dans le fond, à fond la caisse, puis il y en a d'autres qui lèvent le pied. C'est ce qu'on comprend.
Exactement. Et ça, je suis persuadé que si on faisait des études dans à peu près toutes les professions, c'est la même chose. Puis, donc, de vouloir prendre des mesures coercitives pour amener ceux qui travaillent moins à travailler plus, il y a déjà des facteurs de performance, OK? Mais là, si on veut les renforcer encore, renforçons-les peut-être à l'échelle individuelle, mais certainement pas à l'échelle collective. Parce que, faut juste vous imaginer que vous les renforcez à l'échelle collective. Et ce que le ministre Dubé pense, c'est que, disons qu'on dit, lui, ce qu'il veut faire, il veut faire un genre de peer pressure à travers tous les médecins.
Ouais.
Disons que, par exemple, je pense que c'est de cette façon-là qu'il réfléchit, mais je pense qu'il y a tort. Disons qu'on dit, il va y avoir des pénalités à l'échelle collective, c'est-à-dire les workaholics vont être amputés de 15 % ou de 20 ou de 10, peu importe le chiffre qui va sortir après la négociation. Ça va faire en sorte que les workaholics, ils vont regarder de travers ceux qui travaillent moins, et il va tellement avoir un peer pressure que ceux qui travaillent moins vont se mettre à travailler plus. Ça, c'est la
pensée magique.
Psychologie. Ouais, ben je pense que c'est moi je pense que ça va juste tirer tout le monde vers le bas. Ça va faire en sorte que les workaholics ils vont se dire ouais, moi je si de toute façon j'ai pas de contrôle sur le reste du système. Si mes collègues travaillent moins, je vais être amputé, ben moi tant qu'à ça, je vais profiter de la vie, je vais travailler un peu moins. Et ça peut faire en sorte que ceux qui travaillaient déjà moins pour des raisons qui leur appartiennent et qui ont le droit là, comme dans toutes les autres professions, ben ils vont peut-être juste quitter ou ils vont aller dans une autre province.
On entend ça beaucoup là, des jeunes médecins qui pourraient quitter.
Ou ils vont accepter leur pénalité aussi, ça c'est une possibilité. Ils vont dire bon ben c'est correct, je vais payer 15% de moins puis ça s'arrête là. Et peut-être que ça fait l'affaire de Christian Dubé aussi, peut-être qu'il y a de l'argent à aller chercher dans le système qui met des objectifs à peu près irréalisables pour l'ensemble des médecins, puis il se dit ben ça va faire en sorte qu'on va aller chercher un 15% de plus à la fin de l'année. Ça fait peut-être partie de ses calculs. Je dis pas qu'il pense de façon manichéenne comme ça à tout prix. Je ne le connais pas personnellement, mais ça fait partie des hypothèses.
Ouais. Quelles pourraient être des solutions? Parce que là, on parle beaucoup des problèmes engendrés par ce genre de raisonnement de la CAQ, là, d'y aller avec un projet de loi imposé au baillon et de forcer. Là. Mais comment on pourrait ouvrir, si on regarde solutions possibles, quelles pourraient être?
Bon, les solutions possibles, c'est que à l'heure actuelle, je sais qu'il y en a qui ne seraient pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais j'en suis persuadé, puis j'ai fait les calculs moi-même, puis j'ai commandé une étude avec le PCQ à cet effet-là, l'étude chercheur complètement indépendant. On manque d'effectifs. C'est une réalité. Il n'y a pas assez de médecins.
On ouvre les vannes d'un faculté de médecine.
Tout à fait. OK? Et là, il y en a qui vont dire, oui, mais si vous faites ça, de facto, vous allez augmenter l'offre de services parce qu'il va y avoir plus d'effectifs, mais ça va coûter plus cher à l'État. Et on n'a pas les moyens. Ben, je comprends. Deux autres solutions à ça, parce qu'il faut bien descendre dans tout l'algorithme.
Ouais.
Couper beaucoup dans la bureaucratie. Il y a beaucoup trop de fonctionnaires dans la bureaucratie. Puis il faut
Santé Québec, là.
Santé Québec, c'est out. Ça, il faut que ce soit out complètement. Il y a des dizaines de millions à aller chercher là. Les CIS, les CIUS, il y a facilement deux fois trop de paliers là-dedans. Faut couper là-dedans. Donc, on rapatrie des gens sur le terrain. On les enlève dans les tours. On va chercher de l'argent pour les ramener sur le terrain. Autre chose, avec le vieillissement de la population, impossibilité d'avoir un seul payeur. C'est impossible. Faut ouvrir au privé. Faut ouvrir aux assurances privées. Il va toujours y avoir une assurance de base, comme pour les médicaments, où tout le monde va être...
Mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Parce que moi, là, je paye de l'impôt, puis il y a une partie de mon impôt qui va payer le système de droit de soins de santé au Québec.
Ouais.
On remet-tu de l'argent à du monde? Puis on dit, va-t'en au privé, prends-toi une assurance. Comment on fait ça?
Ouais. Ben, absolument, il faut que tu puisses le déduire d'impôt, ou du moins une partie. Il faut faire les calculs comme il faut, là. Mais il faut absolument que tu puisses le déduire d'impôt, parce qu'à un moment donné, là, c'est pas... On te demande... Parce que si on te demande de te prendre une assurance privée, de la payer, puis ça passerait beaucoup par les employeurs, parce que de façon individuelle...
Les assurances collectives.
Oui, ça coûterait quand même très cher de façon individuelle, mais ça existe déjà pour les médicaments. La majorité de la fonction publique, ils ont toutes des assurances privées pour les médicaments. Et ça, ça fonctionne comme ça dans à peu près tous les pays performants. Là. Vous allez en Suisse. En Suisse, en passant, il n'y a même pas d'assurance de l'État. C'est uniquement des assureurs privés. Mais l'État va vous aider avec votre assureur privé en fonction de votre niveau de revenu. Après ça, aux Pays-Bas, il y a beaucoup d'assurances privées. En Allemagne, c'est la même chose. Je veux dire, l'État unique payeur... Là,
ça, c'est fini. On peut plus penser à ça, là.
Je vois pas mathématiquement comment c'est possible.
On n'arrive pas, on n'est pas capable là, tu sais.
Ben sinon, je veux dire, on mettra plus d'argent dans les écoles, on mettra plus d'argent dans les routes, on va être rendu taxé à 75% on va avoir 75% de taxation marginale, d'imposition marginale pour mettre 80% de l'argent dans la santé.
Mais c'est là, c'est vers là qu'on s'en va, là. S'il n'y a rien qui est fait actuellement... Là, on est à quoi, là, à peu près, on met 60 milliards au Québec sur un budget de 150. Mais là, on s'en va vers la moitié du budget du Québec qui va être pompé à santé. À un moment donné, ça devient intenable. Là.
C'est impossible. C'est complètement impossible. Il y a ça. Après ça, si vous voulez augmenter l'offre de services aussi, relevez l'interdiction de la pratique mixte. C'est-à-dire les médecins doivent pouvoir pratiquer et au public et au privé.
Oui.
Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a démontré faire à l'échelle internationale, ce truc-là? C'est que lorsqu'il y en a que pour des raisons X, Y, le privé leur convient mieux, il y en a que le public leur convient mieux, puis il y en a qu'une combinaison des, deux leur convient mieux. Donc, lorsque vous donnez la possibilité d'avoir de multiples employeurs, ben, vous donnez la possibilité à un travailleur d'avoir de multiples satisfactions aussi et la possibilité de, si ça fait pas, dans un milieu qui se décourage pas, puis qui aille travailler ailleurs et qui offre ses services dans quelque chose qui lui convient le mieux. Lorsque vous avez un seul employeur qui s'appelle Santé Québec, dans tout le réseau et vous n'avez même pas une capacité d'aller concurrencer puis d'aller négocier ailleurs, ben, imaginez-vous pas que le système va aller bien. Ceux qui sont insatisfaits de leur travail, ben, ça va être des employés qui performeront pas à la hauteur de ce qu'ils sont en mesure de performer. Ça, puis les modèles sont très clairs. On s'acharne à aller à faire plus de ce qui ne fonctionne pas.
D'autant plus que les médecins, vous êtes incorporés, hein? Donc, ça serait logique d'avoir plus qu'un employeur, là.
Absolument. On a la possibilité de s'incorporer. Je ne sais pas, je pense que c'est à peu près 50% des médecins qui sont incorporés. Ça dépend toujours du revenu que vous retirez à la fin de l'année. Là, parce que pour que vous soyez incorporé, là, grosso modo, il faut qu'il y ait au moins, pour que ça vaille la peine, il faut qu'il y ait au moins une cinquantaine de mille par année que vous n'avez pas besoin d'utiliser. Donc, ça fait à peu près, il y a à peu près 50% des médecins qui sont incorporés. Donc, on a cette possibilité-là. Et oui, je veux dire, généralement, lorsque vous avez la possibilité d'être incorporé, vous devez avoir plus qu'un employeur. De façon générale, donc, oui, ça tiendrait plus la route.
Et ces études-là que vous dites, vous avez commandé avec le Parti conservateur du Québec, ça va venir, ça, éventuellement, là, parce que dans un an, on a des élections. Donc, ça va être présenté au public, là, j'imagine.
Ben on l'a déjà fait. J'ai déjà fait des conférences avec Éric Duhaime à cet effet-là. On avait présenté, j'avais même fait un colloque pour présenter l'étude, mais on avait très peu de visibilité à l'époque. Donc oui, c'est sûr qu'on va remettre ça sur la place publique.
Karim El Ayoubi, merci beaucoup de vos lumières, médecin. Et ce qui est le fun, c'est que vous n'avez pas peur de venir au micro. Hein? C'est très apprécié des auditeurs. En tout cas, on a beaucoup de commentaires sur la messagerie. Bonne semaine et on se reparle prochainement. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Au revoir. Voilà. Karim El Ayoubi, qui est aussi au Parti conservateur du Québec, qui milite. Lui, ce serait notre ministre de la Santé.
Exact.
Vous l'avez entendu, là? Ça serait notre ministre de la Santé, là. Lui, là...
Connais la game, là.
On va gérer... on va remettre ça douette, là.
Bien, on n'a pas le choix.
Non, mais il veut pas rêver. On peut pas aller à moitié du budget de l'État à santé. Non, c'est vers ça qu'on s'en va, Nick.
Mais ça va augmenter. Ça va en augmentant.
Mais c'est 60 milliards, là, je pense que c'est 65 bientôt. Puis ça va être 70. Puis là, nous autres, le même gars qui n'a plus d'argent dans ses poches, à un moment donné, là, il y a une limite.
Mais oui, il y a une limite. Puis le problème, c'est que ça coûte de plus en plus cher. Et il y a de moins en moins de services. Puis on fait des réformes. Puis là, regarde, les gestionnaires des... les directeurs de soins des GMF et des CLSC vont gérer des patients orphelins.
1,2 million de plus dans White.
Hey, il n'y a pas plus de services, là?
Ces gens-là, là, qui vont recevoir une lettre, là.
Ben moi, mettons, là. Ouais. Moi, je vais faire partie du processus. Je ne suis pas de médecin de famille.
Monsieur Cloutier, vous êtes maintenant votre médecin de famille.
GMF Charny.
Ouais. Ben là, faut que tu l'appelles.
Ben là, je vais appeler.
Imagines-tu le bordel dans les prochains
mois? Salut, moi, j'aimerais ça voir un médecin, là. Ouais, mais toi, tes couleurs, t'es couleur vert.
Toi, tu bouges pas bien, bien. Toi, tu manges des chips le soir, là. Mais il va falloir. Puis là, t'es sur ton code de couleur, tu comprends?
Mais moi, je suis vert, mettons, là. Ou rouge. Ouais. Alors, lui, c'est pas. C'est un tout croche, ça. Je sais pas comment ça va marcher. Là.
Ça soit brun.
Faut que ça soit brun.
Ouais. Ah, bon. C'est... Code de couleur brun. Ça se passe en priorité.
OK. Mais tu sais, c'est ça, tu vas appeler. Ou tu vas appeler le GMF qui va te prendre en charge. Puis là, le directeur de soins, lui, va mandater quelqu'un qui va s'occuper d'essayer de te trouver.
Ouais.
Le bon professionnel pour toi.
Imagines-tu le bordel que ça va créer là, dans les prochaines semaines, les prochains mois?
Croyez-vous? Moi
mais
non.
Mais sur papier, comme il dit, ben pour la CAQ, ça va être merveilleux.
Ah, mais c'est sûr, il va pouvoir dire, ben là, vous voyez, là, tous les patients sont pris en charge quelque part.
On a respecté notre promesse. Mais... parce que c'était la promesse de la CAQ, souvenez-vous, en 2018, que chaque patient a un médecin de famille, ou lié à un. Là, on ne l'avait pas, là, l'entourloupette, là, c'est les codes de couleur.
Mais oui, bonjour Madame Bernier, là, votre foulure, là, on a une place avec un médecin pour traiter votre foulure de la cheville, là, mais ça serait dans un an et demi.
Ouais, foulure de la cheville, moi je vais à l'urgence, là.
Oui, mais tu vas attendre 20 heures, là.
Ouais, ben peut-être pas 20 heures, peut-être 18 heures. Dans le genre, là.
Donc, votre tunnel carpien, Madame Bernier, là, on aurait quelqu'un vous dans 3 ans et demi.
Oui, c'est ça. Votre cancer, je sais pas où, là. Cancer de la vessie, là, ça va être 6 mois.
Que tu rajoutes 1,2 million de personnes qui vont avoir besoin potentiellement de voir un médecin.
Dans le réseau.
Alors
que le réseau ne fournit pas actuellement.
Exact.
On va voir. Ça va être à suivre. Hey, on ouvre les lignes après
88 670 9098.
On va où?
Ben, on peut parler de ça, et croyez-vous? De...
Ben, ça, puis l'intelligence artificielle.
Exactement.
Moi, je pense qu'on peut y aller at large. Là.
Oui.
On est capable de mâcher de la gomme en marchant.
Hein? Est... J'imagine.
Fait que sur le plan du B de la CAQ, ouais. 1,2 ouais, 1,2 million de patients qui reviennent dans le réseau dès janvier, qui vont être assignés à un CLSC, GMF. Ouais, CLSC ou un GMF. Mais ça, ça va mettre de la pression sur le monde qui est là.
Ben oui.
Donc moi, si j'appelle, moi, je vais me dépêcher à appeler mon
toi,
médecin.
Ouais, c'est ça. Mais moi, j'en ai plus. Moi, je vais vraiment passer dans le 1,2 million. Là.
Ouais.
Moi, je ne crois pas que ça va changer quelque chose.
Et l'autre chose, l'intelligence artificielle. On en a parlé en début de show. C'est le boss de Walmart qui, lui, dit que dans les prochaines années, là, ça va même... Lui, déjà sur le terrain, Walmart, dans le privé. Là. Peut-être pas au gouvernement, parce que ça a l'air que le gouvernement, des fois, c'est long, les réformes. Ça peut être long à gérer, là, de l'intelligence artificielle, puis ça fait peur à bien du monde. Mais lui, il voit positif. Lui, il dit que ça va changer le monde du travail. Chaque emploi la majorité des emplois vont être affectés.
Ben, oui, est-ce que vous craignez?
Craignez-vous ça?
Ouais.
Moi je suis du type, comme l'informatique, moi, je vois pas d'hécatombe. Tu sais, il y a du monde qui vont partir à la retraite, puis ça, et ça c'est la réalité de la vie.
Ça va se balancer.
Puis on le voit, là, au gouvernement, si on veut remplacer des gens qui partent à la retraite, ben, il va falloir que... l'intelligence artificielle compense deux départs pour un embauche.
Oui.
On nous a parlé souvent de ça, mais c'est pas ça que la CAQ a fait. Mais ça, c'est, je te dis au gouvernement, mais dans le privé, il va en avoir là, de l'intelligence. On l'a déjà, il y a des robots conversationnels. Écoute, tu parles avec quelqu'un, c'est une intelligence artificielle. Donc voilà. C'est quoi le numéro?
88-670-9098.
On revient après la pause.
Couture dans le mid. Radio X.